بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيخ الإسلام، نرمسيون الله notre Seigneur qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir pour parler du dîn d'Allah Rabbul Izza, d'étudier les paroles d'Allah Azza wa Jal avec pour objectif d'avancer dans la religion et de mieux pratiquer. Chef en Islam, la Ummah a vécu ces dernières semaines des situations extrêmement difficiles. On ne va pas rappeler les événements qui se sont produits il y a deux semaines. Tout le monde a été profondément affecté sur le plan humain, sur le plan spirituel. Et d'une façon générale, nous avons vu aujourd'hui l'hommage qui a été rendu aux victimes. Et chaque personne qui a dans sa poitrine un qalb, un cœur, ne peut être qu'affectée par ces personnes qui sont décédées. Quand on voit la moyenne d'âge de ces gens, c'était 35 ans. Il y a parfois il y a même une petite fille de 11 ans. Il y a des parents qui ont laissé des orphelins. Et lorsqu'on voit cette horreur, on ne va pas dire un discours où on va essayer de faire le gentil pour prouver qu'on est républicain. Aucunement. Là, on parle d'un discours qui vient du cœur. Lorsqu'on voit ce genre d'horreur, on se dit que, subhanallah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé pour ça. Le Coran n'a pas été révélé pour ça. Lorsque notre prophète alayhi salatu wa sallam a été envoyé dans la péninsule arabe, s'il y a possibilité d'éteindre tous les ventilateurs, des appels à faire, en fait, on dirait qu'on a forcé cela. C'est là, ça s'était éteint, on les a allumés. Le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a été envoyé de la péninsule arabe, c'était une époque où, justement, les Arabes commettaient des choses horribles. Il y avait des crimes. Il y avait des crimes. Ils exagéraient dans les peines de mort. Il y avait également beaucoup d'abus concernant les veuves. Il y avait de l'abus également concernant les femmes qui n'avaient pas droit à l'héritage. Il y avait une pratique qui était typique chez certaines tribus bédouines, qui était que si l'enfant né de sexe féminin, c'était un déshonneur et il l'enterrait vivant. Les Arabes avaient l'habitude également de se laisser aller dans les boissons alcoolisées et avec ça, ils commettaient beaucoup d'erreurs. Le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé pour éradiquer tout ce qui est mauvais, tout ce qui pousse l'homme à mal agir, à porter atteinte à l'intégrité de son prochain, à faire du mal à son prochain. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah m'a envoyé pour compléter les bons comportements. Parce que chez les Arabes, il y avait quand même des choses positives. L'hospitalité, il y avait quand même le fait de respecter ses engagements. Il y avait des points positifs et le prophète a été envoyé pour compléter tout ce qui était positif et d'éradiquer, d'enlever tous ces comportements violents qu'on pourrait dire barbares. Et lorsque nous voyons les agissements de ces personnes, je ne sais même pas comment il faut les appeler, on se dit que, subhanallah, ils ont fait pire que les Arabes de la Jahiliya. Ils ont fait pire que les Arabes de la période de l'ignorance. Et la plus grande des trahisons, ce serait que tout ce qui a été perpétré, tout ce qui a été accompli comme horreur, soit revendiqué au nom de quelques versets du Coran. Il n'y a pas plus grande khiana, il n'y a pas plus grande trahison que d'assimiler ces atrocités à soi-disant un enseignement islamique, ou alors de penser que à travers les versets du Coran, Allah, astaghfirullah, aurait demandé à l'homme d'agir de cette façon. Franchement, mes chers frères en islam, si c'était ça notre religion, il n'y aurait plus de civilisation. Si notre religion était une religion de guerre, une religion d'affrontement, une religion à chaque fois où on est opposé à des gens, on les élimine, ou alors si nos frères en islam ont été opprimés dans une région du monde, on est en droit de se venger sur des personnes appartenant à la même confession que ceux qui ont fait du tort, ou alors, peu importe, des gens qui n'ont pas la foi, qui habitent dans notre périmètre, on peut se venger sur eux. Si c'était ça l'islam, il n'y aurait plus de civilisation. Parce que l'islam s'est répandu dans toutes les régions du monde, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé, l'avait promis. Et les personnes ont pratiqué la religion de façon, on pourrait dire, parfaite à l'époque des Sahaba. Oui, parfaite. Pas on pourrait dire de façon parfaite à l'époque des Sahaba. Ensuite, il y a eu, au fur et à mesure, il y a eu une diminution dans le degré de pratique. Ce qui veut dire qu'à l'époque des Sahaba, comment les gens pratiquaient, à l'époque des Tabi'in, s'il devait y avoir des tueries, si pour être un vrai croyant il fallait agir comme ça, ben les Tabi'in auraient tué plein de gens. Parce que c'était les gens qui avaient le plus compris la révélation. Alors que ce n'était pas le cas. Vous connaissez l'histoire de Omar ibn Abdul Aziz? On l'avait déjà raconté, enfin, subhanallah, qui n'a pas entendu de parler du calife Adil, hein, ce calife qui était juste. Lorsque Omar ibn Abdul Aziz a pris le khilafa, il y a des bédouins, des gens qui habitent le désert, qui sont descendus en ville et posé la question aux gens de la ville, qui est devenu le chef? Il y a quelqu'un de spécial. Les gens de la ville posent la question, mais pourquoi vous posez cette question là? Vous habitez à des centaines de kilomètres, vous ne connaissez rien de la civilisation, on pourrait dire, et comment savez-vous qu'il y a un changement en guillemets politique? Il a dit que quand il y a un dirigeant juste, les loups n'attaquent plus le bétail. Quand il y a un dirigeant juste, les loups n'attaquent plus nos moutons. Parce que quand un homme, un dirigeant est juste, cette justice, cette bonté, elle a une influence sur l'ensemble de la Oumma. Et c'était un homme qui était d'une piété incomparable. On parle du petit-fils ou de l'arrière-petit-fils de Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, al-Farouq. Et c'était quelqu'un, dites-moi, c'est pas à lui qu'on allait apprendre la religion. C'est pas à Omar ibn Abdul Aziz qu'on va enseigner comment est-ce qu'on agit avec les chrétiens, avec les juifs, avec les polythéistes, avec les personnes qui ne croient pas en Dieu. C'est pas à lui qu'on allait faire la leçon. Pourtant, à Dimashq, lorsqu'il avait un responsable, un amir, qui supervisait la ville de Damas, et ce amir avait pris une mauvaise décision, il y avait un terrain qui appartenait à la population catholique. Et ils avaient une église à cet endroit. Et les musulmans voulaient agrandir la grande mosquée de Damas. Et pour ça, ils ont pris un morceau de terre qui appartenait à la communauté chrétienne. Et ils ont même cassé un morceau de l'église pour la construction de la masjid. Le responsable de la délégation de la communauté catholique chrétienne est parti voir le amir, Omar ibn Abdul Aziz. Il lui a expliqué qu'est-ce qui s'est passé à Damas. Omar était tellement furieux parce que son responsable, son ministre, on pourrait dire, son consul dans ce pays, a agi de façon contraire à l'enseignement de l'islam. Faire preuve d'injustice, quand on parle de adl, de justice et d'injustice, on ne regarde pas qui est en face, c'est un croyant ou quelqu'un qui est athée. Ça, c'est insan. Et l'islam, c'est une religion de insaniya, d'humanisme. Omar ibn Abdul Aziz a demandé à son amir, j'ai plus son nom en tête, de casser l'agrandissement de la mosquée qui avait été construite sur le terrain des chrétiens. Et de réparer le tort qui a été commis, de construire, de reconstruire ce qu'ils avaient cassé de la construction de l'édifice des catholiques. Ça, c'est une preuve de la justice. Et c'était ces gens-là qui avaient réellement compris l'islam. C'était ces gens-là qui étaient le plus proches de la période de la révélation. Et voyez leur bonté, leur grandeur d'âme, voyez leur humanisme, voyez leur comportement avec les gens. Ce sont eux les modèles. Ce ne sont pas ces personnes qui se prétendent, Allah musta'an, je ne sais pas suivre quel courant de pensée. Et comment est-ce qu'on peut imaginer des gens qui vont reprendre la vie de centaines de personnes et se proclamer? Je ne sais pas, c'est... En arabe, il y a un terme, ça s'appelle hamadiyya. C'est vraiment quelque chose de complètement fou, excusez-moi, de totalement incohérent. Et je ne sais pas, est-ce qu'ils pensaient aider l'islam de cette façon? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et regardez maintenant comment est-ce que les musulmans en France, en métropole, quelles sont les difficultés? Quelles sont les difficultés? Subhanallah, j'ai un ami qui est... On discutera après. J'ai un ami qui revient de métropole hier. M'a expliqué, il porte la barbe, hein, il ne met pas le qamis, c'est tout, en chemise, pantalon et tout. Il m'explique le nombre de fois qu'il s'est fait contrôler. Il m'a dit qu'à un moment donné, on est fragilisé psychologiquement. Il m'a dit que c'était terrible. Et c'est quelqu'un qui habitait là-bas avant les études et tout, habitué. Mais il m'a dit que c'était quelque chose d'inconcevable, tant pour les messieurs que pour les dames. Il dit même pour aller à la masjid, pour la salat al-Jum'ah, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Maintenant, imaginez, subhanallah, monsieur tout le monde est en train de, d'une certaine façon, de façon indirecte, de vivre les conséquences. Il peut y avoir ce monsieur X, on va appeler Abdullah, qui tout le matin, il va à la prière de Fajr, et après la salat de Fajr, il reste assis, il lit ce Coran, il fait son dhikr, il fait ses deux rakas de shuruq, et puis il rentre chez lui tranquillement. Ben même, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait du tort à personne. Même dans ses habitudes, il risque de rencontrer maintenant des difficultés. Tout ça, Allah Musta'an, par rapport à ces choses qui sont produites. Maintenant, vous savez, les vérités, qui a fait, comment, de quelle façon, il y a beaucoup de questionnements qui restent sans réponse. Et beaucoup de ces réponses, on les aura le jour de Qiyam. Parce que devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, il n'y a plus d'hypocrite, il n'y a plus de menteur, il n'y a plus de façon. On vit dans un monde où on croit ce qu'on nous dit. D'accord ? Et on n'a pas d'autre solution. Mais le jour de Qiyama, c'est Allah Rabbul Izza qui va juger. Et ceux qui ont causé du tort à leur prochain, ben ils auront des comptes à rendre auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui ont causé préjudice à la religion d'Allah, ceux qui ont mis les croyants et les croyantes dans des situations délicates et difficiles, ils auront certainement à répondre. Nous, de notre côté, on se doit de, subhanallah, de redoubler de vigilance dans notre façon de nous comporter. C'est vrai, c'est un vieux discours, ça, le bon comportement. Oui, mais le bon comportement, c'est la base. On a eu des témoignages de personnes de La Réunion, une personne qui habite dans les Hauts, sans utiliser le terme péjoratif, on appelle ça des yab, mais c'est pas méchant, personne qui habite à la montagne de Saint-Denis, la montagne, hein, à 8 km, 10 km, personnes âgées qui ont toujours, mashallah, cohabité avec les musulmans, et là, du coup, ils se posent des questions. Ils ont téléphoné à une personne qui a téléphoné chez nous, dit voilà, on aimerait bien comprendre, explique à nous ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça perturbe tellement l'esprit des gens que, à force d'écouter, à force de voir à la télé, à force d'entendre, ben, à un moment donné, le cerveau, il ne peut plus rester sur ses acquis. Il finit par pencher vers ses thèses. Parce que quand on a 130, c'est bien 130 morts, non ? 130 morts et plus de 300 blessés, mais il faut bien qu'il y ait un coupable. Et quand le coupable n'est pas palpable, on n'arrive pas vraiment à l'avoir et tout, et qu'il porte les mêmes prénoms que mon voisin, et qu'il lise le même Coran que mon voisin, et qu'ils ont peut-être la barbe, mais enfin, eux, ils n'avaient pas trop de barbe, et ils ont une même apparence physique, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, le citoyen basique, il finit par confondre. Et il finit par se dire que oui, mais peut-être que ces musulmans-là, ils nous font croire qu'ils sont tranquilles, mais dans le Coran, il y a plein de choses qui sont écrites. Vous savez, ce qui est extrêmement important, et on avait expliqué ça dans la prêche d'aujourd'hui, vendredi, c'est de bien communiquer, premièrement aux enfants. Ça, c'est très important. D'expliquer aux enfants qu'est-ce qui s'est passé et de ne pas considérer le sujet comme étant tabou. Parce que qu'on le veuille ou non, de nos jours, les enfants sont beaucoup plus dégourdis qu'avant. Hein? Ils ont accès à l'information. Il ne faut pas croire que on va détourner leur attention. Non, ils savent. Et pertinemment, quand on va essayer de détourner leur attention, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fait pas partie de notre monde et ils vont essayer de comprendre. À l'école, ils vont en parler, les professeurs vont discuter de ça. Et nous, en tant que parents, c'est une responsabilité d'avoir un langage clair, un langage qui n'est pas choquant, on ne va pas parler des morts et ainsi de suite, mais d'expliquer que voilà, parmi ceux qui se disent musulmans, il y a des gens qui ne comprennent rien, qui ont d'autres objectifs et qui vont faire telle chose, et les gens vont peut-être parfois croire que tous les musulmans sont comme ça, alors que notre religion est là, on explique quelles sont les valeurs de notre religion. Quand on analyse les piliers de l'islam, la prière, est-ce que quand on prie, on fait du mal aux gens ? Est-ce que quand on jeûne le jour de Ramadan, le mois de Ramadan, est-ce qu'on fait du tort aux gens ? Est-ce que quand on donne l'aumône, la zakat, est-ce qu'on fait du tort aux gens ? Bilax ! Bien au contraire, lorsqu'on va au hajj, quand on analyse les piliers de la foi. Et deuxième point, il ne faut pas laisser le monopole de la religion, de l'interprétation de la religion, aux mains des personnes qui commettent ce genre de choses. Parce que ces personnes, ils vont se faire sur deux choses. Un, sur les versets du Coran qui parlent des guerres. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a jamais eu de guerre, ce serait mentir. Badr, Uhud, Khandaq, Hunayn, et ainsi de suite. Mu'ta, et plein d'autres encore. Et ils vont également, donc les versets qui parlent des guerres, et les faits d'histoire, la sira. Maintenant, si on laisse ces personnes, si nous on reste de l'ignorance, on va finir par croire que, c'est-à-dire que ouais, c'est vrai, c'est peut-être comme ça que l'islam s'est propagé, comme ils essaient de faire comprendre. Et puis on ne comprendra plus notre religion nous-mêmes. Je pense qu'il est grand temps que chaque croyant, il travaille sa connaissance religieuse. On ouvre enfin les livres de Sira, on lit. Qu'est-ce qui s'est passé à Badr? Est-ce que les musulmans ils voulaient tuer les Mécois? Jamais de la vie. Ils voulaient récupérer l'argent qui a été volé. Et Abu Sufyan, lorsqu'il sait qu'est-ce qui se passe, il envoie un émissaire à Mecca pour qu'on envoie une armée de Makki, des personnes avec l'attirail armé jusqu'aux dents, pour affronter des musulmans qui pour la plupart, ils n'étaient même pas armés. Ils n'étaient pas prêts au combat. Uhud. Pourquoi est-ce qu'ils se sont battus encore à Uhud? Un an que les Mécois ils préparent leur revanche. Un an qu'ils préparent leur stratégie pour pouvoir tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir les éliminer. Et regardez comment ils ont agi de façon... comment c'était une stratégie organisée à l'avance. Ils ont même creusé un trou avec l'espoir que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tombe devant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé de ce trou. Faire reculer le prophète pour qu'il tombe et tout, pour qu'on puisse, na'oud billah, le frapper. Ils avaient prévu plein de choses. C'était une vengeance qu'ils avaient gardée en eux pendant un an jusqu'à ce qu'ils puissent l'exprimer, l'armée prête, et ainsi de suite. Lorsqu'on parle de la bataille de Mu'tah, est-ce que les musulmans ils vont aller taquiner les Romains? Qui c'est qui va aller se battre avec les Romains à cette époque? C'était pas, non, c'est pas, si je ne me trompe pas, il y avait 200 000 Romains, si je ne me trompe pas, je dois revoir les chiffres. Mais les Romains, ils avaient commencé à s'approcher des frontières, intimider, rentrer dans les territoires arabes. Il fallait envoyer une armée pour montrer que ça, c'est notre terre, nous. On ne s'approche pas. Après, il y avait l'histoire de l'émissaire qui avait été tué par Sharahbil, un représentant de César et tout. Bon, bref, mais il était important de lire la Sira et de comprendre comment est-ce que ces batailles se sont déclenchées. Dans ce qu'on parle de Khandaq, les coalisés, qu'est-ce qui s'est passé? Certaines tribus dans Madina se sont alliées aux Mécois. Ils ont fait un plan pour encercler les musulmans. L'objectif, c'était de tuer toute personne qui a la ilaha illallah Muhammad al-Rasul de leur cœur. Hommes, femmes et enfants, avec à leur tête Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont défendus. Il fallait défendre femmes et enfants, défendre sa famille, défendre ses biens, défendre les murs de la ville, défendre l'islam. C'est pas comme certaines personnes essaient de nous expliquer qu'à chaque fois, tous les deux ans, le prophète allait en guerre. C'est pas du tout ça. Quand le prophète reçoit une délégation chrétienne de Najran qui vient dans la Masjid Nabawi, est-ce que le prophète s'est dit qu'eux, ils ne sont pas musulmans, allez, on va les tuer? Le prophète les a accueillis, les a hébergés, leur a accordé l'hospitalité, il leur a donné l'explication, c'est quoi l'islam, subhanallah. Il a réalisé, quand le prophète arrive à Madina, à Munawwara, et qu'il y a trois tribus juives, Banu Qaynuqa, Nadir et Banu Qurayza, le prophète ne les chasse pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas livrer combat avec ses tribus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les chefs de chaque tribu. Il dit voilà, on signe un pacte de non-agression, afin que chacun vive tranquillement. Et au-delà du pacte de non-agression, c'était même un pacte de solidarité. Que si un ennemi commun vous attaque, vous avez un ennemi aux tribus juives qui ne nous concerne pas, mais à partir du moment où il rentre sur le périmètre, les musulmans sont avec vous. Et pareil, si un ennemi nous attaque, vous devez nous aider. Après, tout ce qui s'est passé, c'est autre chose. Mais à la base, comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait prévu qu'il y ait une cohabitation? Donc, on ne doit pas laisser le monopole des textes aux personnes qui donnent de fausses interprétations. Il faut vraiment, il faut en effet là, qu'on ait une éducation religieuse correcte et qui correspond aux besoins. Qui correspond aux besoins. Lorsqu'on entend un peu n'importe qui dit que le Coran dit ça, l'islam dit ça, si à chaque fois dit, ah ben écoutez, moi je sais pas, demandez au imam, il dit que ben il pratique une religion qu'il ne connaît pas lui-même. Ça c'est un devoir pour que chaque croyant, quand on parle de talabul ilm, apprendre la connaissance religieuse, il y a deux niveaux. Il y a la connaissance religieuse générale quand on veut enseigner, ça c'est un idéal, ça c'est pas obligatoire pour tout le monde. Ensuite il y a la connaissance basique, nécessaire pour chaque croyant, comment tu pries, comment tu fais tes ablutions, ça c'est très clair, mais également comment tu vis ta vie de croyant sans être perturbé, en évacuant les doutes qu'il peut y avoir de ta foi, de ta pratique. Ça, c'est un devoir pour chaque croyant. Ah ben. Donc, le fait d'être assis, là, ce soir, et de, même s'il y a 5 minutes, 10 minutes qui restent, mais de parler de Tabarak al-Ladhi, Suratul Mulk, c'est une ni'mah, un bienfait de la part d'Allah, parce que certains de nos frères et sœurs, dans certains quartiers, en métropole, à Paris, particulièrement dans les banlieues, ben, ils ont beaucoup de difficultés maintenant à parler de la religion parce que c'est devenu très compliqué. Qu'Allah Rabbul Izzah apaise les cœurs Et vraiment, le doigt le plus sincère qu'on peut faire, c'est que jamais plus, jamais plus, jamais plus que ce genre de choses se produit. Que jamais plus il y ait une personne qui meurt ou quelqu'un qui attaque son prochain, se revendiquant de l'islam. Il faut plus que notre religion soit salie. Donc on lève les mains, on demande à Allah de l'aide et on demande à Allah Rabbul Izzah la protection contre l'agissement de ces ignorants. On va quand même voir un verset. Il me semble qu'avant, enfin, il y a deux semaines, on avait vu Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim. Oui, on l'avait vu le verset 12. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. On avait mis en avant la taqwa, la piété. On a dit que la piété, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Le prophète a dit at-taqwa hauna, la piété est dedans. Et cette piété qui est dans le cœur va se manifester bil jawarih, par les membres, où les membres vont accomplir les bonnes actions, et également les membres vont s'abstenir des péchés. Et ça, c'est la qualité propre, c'est une qualité qui doit être intrinsèque pour chaque mu'min, pour chaque croyant. Et on avait cité également, il me semble, le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam parle des sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, yawma la dhilla illa dhilluh, le jour il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est l'ombre du arche d'Allah Azza wa Jal. Et parmi ces catégories, on avait juste cité cet homme qui reçoit les avances d'une femme d'une grande beauté et de haute lignée et qui dit je crains Allah. Et cet homme tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, qui donne l'aumône, et quand il donne, quand on parle de l'aumône, c'est l'aumône, le sadaqa, pas le sang de zakat. Mais vous savez que sadaqa, parfois, c'est pour zakat aussi. Mais l'aumône qui n'est pas obligatoire, qu'il donne avec une telle discrétion que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné, c'est une métaphore. Et la qualité commune, Ibn Kathir, rahimahullah, en commentant ce hadith, il dit que la qualité commune à ces deux personnes, c'est la crainte d'Allah. Le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah, dans l'accomplissement des bonnes actions, mais également dans l'éloignement des péchés. C'est-à-dire la crainte d'Allah, la présence d'Allah dans le cœur, ce n'est pas uniquement quand tu fais une bonne action, c'est également quand tu fasses un péché. Tu te dis que je ne peux pas le faire, Allah est au-dessus de moi, il me voit, il me l'interdit. Mais également quand tu fais quelque chose, tu dis ça je fais pour Allah, Allah m'observe, je dois le faire de la façon la plus aimée par Allah. Et l'action la plus aimée par Allah, c'est celle qui est faite avec le plus de ikhlas, sincérité. Il ne faut jamais montrer aux gens les bonnes actions qu'on accomplit, mis à part certaines catégories d'actions comme les piliers. Les piliers, ça doit se faire de façon ouverte, les piliers d'islam, je veux dire. La prière, le namaz faraz, en congrégation. La zakat, in tubdu sadaqati fa ni'mahi, jusqu'à la fin du verset, certains savants disent que la zakat, on peut donner ouvertement pour encourager les gens à donner. Le hajj, on ne se cache pas pour faire le hajj, de toute façon, il y a 3 millions de personnes, et ainsi de suite. Le ramadan, c'est spécial, on va dire que c'est plus une relation avec Allah, mais là aussi, hein, les gens, ils sont là, ils sont présents, donc les piliers d'islam sont visibles. Mais mis à part ça, toutes les actions doivent être cachées, et que ce soit un secret entre nous et Allah. Donc la présence d'Allah dans le cœur, la pensée permanente d'Allah, c'est quand on est face à un péché, mais également c'est mettre tout notre cœur, notre sincérité, notre ikhlas, quand on accomplit une bonne action. Il y a également l'exemple du sahaba qui a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui retourne chez lui, qui pense que sa foi a diminué. Et le prophète dit ne t'inquiète pas, c'est pas ça l'hypocrisie, parce qu'il avait posé la question, quelle est ta relation, comment tu conçois ton Seigneur? Il dit Allahu Rabbuna fi sirri wal alaniya, on pense à Allah, Allah est toujours présent dans nos cœurs, qu'on soit auprès des gens ou bien qu'on soit seul. Le prophète sallam dit donc, ça c'est pas l'hypocrisie. En commentaire, les savants disent, celui qui a la pensée d'Allah en permanence, que ce soit devant 200 croyants, ou seul chez lui, ou dans un pays à l'étranger, ou dans un endroit où personne ne le voit, et que malgré ça, cette personne pense à Allah et n'accomplit pas de péché, c'est une preuve qu'il n'y a pas d'hypocrisie, déjà dans le cœur, et c'est une preuve que c'est quelqu'un qui développe la taqwa. Et c'est ce qui est le plus important. Maintenant, on ne va pas non plus dans le discours de certaines personnes, hein, on entend un peu de tout ces derniers temps aussi, certains qui disent que l'islam c'est la foi, et la foi elle reste au niveau du cœur et tout. On entend aussi, hein, là c'est également l'occasion d'entendre plein de gens, malheureusement, et des discours qui vont dans tous les sens. Non, l'islam c'est la foi et l'accomplissement des bonnes actions. On ne peut pas dire que c'est uniquement la foi. À chaque fois qu'il y a « Innal ladina amanu », c'est accompagné de « Wa aminu salihat ». Parce que si on suit cette logique, à un moment donné, ils vont dire qu'il suffit juste de dire que je suis musulman et on ne jeûne pas, on ne prie pas. Et Allah musta'an, on finit par complètement abandonner les piliers de la religion, changer l'islam. Il y a un juste milieu, il ne faut pas non plus aller vers un discours de ce sens. Là, on serait à l'encontre des textes. Verset suivant, le verset 13, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ibn Kathir, rahimahullah, explique ce verset, je relis, que vous cachiez votre parole, qu'on ne dit pas, on garde intérieurement, ou la divulguiez, ou que vous le dites, sachez aux croyants que il connaît bien le contenu des poitrines, qu'Allah Azza wa Jal sait pertinemment ce qu'il y a de nos cœurs. Il dit que c'est un rappel pour chaque croyant qu'on prenne conscience que Allah c'est celui qui est alimun bidhatis sudur, qui sait exactement ce qu'il y a dans les cœurs. Aucun être humain ne peut prétendre avoir un entre guillemets pouvoir de lire ce qu'il y a dans les cœurs ou de connaître le degré de piété ou les péchés d'une personne. Abadan wallah, en aucun cas. Certes, il y a des histoires concernant Abu Hanifa qui aurait vu des péchés couler des membres d'une personne, mais on pourrait dire que ça peut être un karama si le récit est authentique, mais c'était pas systématique. C'est pas chaque fois que quelqu'un fait vos yeux, il voit, ça peut être une fois comme ça. Allah lui a donné une possibilité. Mais en aucun cas, un être humain ne peut juger son prochain ou déterminer son degré de piété ou autre chose. Le prophète alayhi salatu wassalam ne connaissait pas le nom des munafiqins, des hypocrites. Umar ibn al-Khattab, avec la connaissance qu'il a, comment c'était quelqu'un de perspicace, il ne connaissait pas le nom des hypocrites dans la Ummah. Il avait besoin de savoir, de craindre qu'il fasse partie de ces gens-là. C'est-à-dire que personne ne peut juger la foi ou le contenu du cœur de son prochain. Le seul qui connaît, c'est notre Seigneur. Allah, il est alim, bidat al-sudur. Et en commentaire, il dit également, celui qui a pris conscience que Allah, c'est-à-dire scan ce qu'il y a dans mon cœur. Allah, il connaît parfaitement tout ce qu'il y a dans notre cœur. Comment est-ce qu'on peut préparer des mauvaises actions? Comment est-ce que dans notre cœur, on peut anticiper, penser que je vais faire telle chose-là? Comment est-ce qu'on peut créer l'envie dans le cœur d'aller regarder quelque chose de haram, d'aller écouter quelque chose de haram, d'aller faire quelque chose d'interdit, alors que tu sais pertinemment qu'Allah, Rabbul Izzah, à ce moment précis, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et dites-moi, les pensées, quand il dit le cœur, c'est les pensées intérieures. Il y a combien d'êtres humains en ce moment sur la Terre? 8 milliards? Un peu moins, 7? Allez, on va dire 7 milliards. Hein? On va dire 7 milliards. Mais, mis à part ceux qui dorment, même si 7 milliards de personnes, en même temps, ils pensent à des choses, Allah Azza wa Jal, qui est alim, alim qui vient de ilm, la connaissance. La connaissance d'Allah, c'est le passé, le présent, le futur conditionnel. C'est également la connaissance de ce qu'il y a dans les poitrines, dans les cœurs. Allah sait exactement ce qu'il y a à ce moment précis, ce qui se passe dans le cœur des 6 ou 7 milliards de personnes en même temps. Ça, c'est le ilm, le pouvoir, la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Les ulama disent que maintenant, on doit réaliser qu'on ne peut pas tromper Allah. Vous savez, on peut tromper n'importe qui. On peut tromper, enfin, dans le sens... C'est-à-dire, on peut tromper sa femme, dans le sens, on peut mentir à sa femme, c'est pas de l'autre sens, d'accord? On peut tromper ses professeurs, on peut tromper la société, donner une image de soi devant les gens, puis par derrière être le plus grand hypocrite, le plus grand voleur, le plus grand menteur, le plus grand sauvage. Bon, on va se calmer, on devient violent là. Hein? Parce qu'il y a plein de gens comme ça, qui donnent une image, mais après, c'est pas ça du tout, dans les relations avec le travailleur. Et il y aurait tellement de choses à dire quand il y a des jeunes stagiaires qui reviennent et qui disent oui, on a été chez tel commerçant, ouais, ils sont pas sympas, c'est des musulmans, mais c'est comme ci, comme ça. On sait bien comment ça se passe dans notre communauté. Bref, donc parfois on donne une apparence qu'on est correct, qu'on est religieux et tout, dans notre travail, dans notre relation avec nos employés, dans la façon de les payer, de les traiter, comment est-ce qu'on agit. Hein, parfois, moi je connais même des anecdotes de personnes qui travaillent comme femmes de ménage, des personnes disent que c'est un traitement presque d'esclave, parfois il n'y a aucune considération et tout et tout. Bref, on peut, qu'Allah ne pardonne, hein, on ne juge personne, mais qu'Allah évacue de mon cœur ses mauvaises pensées. Mais on peut tromper n'importe qui, donner une fausse image. Mais on ne trompe pas Allah. On ne trompe pas notre Seigneur. Parce qu'Allah, il connaît exactement ce qu'il y a dans notre cœur. Et quand on accomplit une action par ostentation, et que les gens, ils tombent dans votre piège, ah oui, franchement, lui, c'est un costaud, il a donné tout ça pour la mosquée, ou il regarde comment il prie la nuit, comment il lit le Coran bien et tout. Peut-être que je trompe 150 personnes en même temps. Mais Allah, Rabbul Izzah, c'est le seul qui connaît que dans ce cœur-là, il y a Allah et il y a les gens. Donc Allah n'accepte pas. Allah n'accepte pas qu'on lui associe d'autres personnes dans un acte d'adoration. Et Allah, taraktuhu wa shirka. Allah t'abandonne avec ton association. Allah, c'est le seul qui peut dire qui est sincère, qui n'est pas sincère. Et donc, les commentateurs disent que maintenant, une personne qui, et ça, ça peut arriver à certaines personnes qui sont faibles de foi, pour ne pas dire faibles d'esprit, se disent que voilà, bon, écoute, c'est vrai, là, j'aimerais bien aller m'amuser un peu avec mes amis, aller faire tel truc, aller en boîte de nuit, aller faire telle chose. Mais de toute façon, bon, le Ramadan, c'est bientôt. D'accord ? Ou alors, ben, je dois aller au Hajj bientôt, et ainsi de suite. Après, on va demander pardon. On leur dit, de toute façon, hein, quand on fait telle bonne action, les péchés sont effacés, le Jum'a ou... Quand quelqu'un prévoit le péché, il prévoit de demander pardon. Vous ne pensez pas qu'Allah, il connaît déjà. Est-ce que la personne est sincère quand il va demander pardon ? Il ne sera pas sincère. Parce que quand à la base, on accomplit un péché volontairement avec... volontairement et qu'on prémédite ce péché et le tawba qui doit suivre juste après... Et qu'on demande pardon, cette demande de pardon n'est pas sincère. Parce qu'à la base, tu avais prévu de faire quelque chose de mal et ensuite de demander pardon. Donc, ce n'était pas sincère. C'est pas comme, je ne sais pas si je suis clair, hein, c'est pas comme quelqu'un qui par inadvertance a accompli un péché. C'est arrivé et il regrette, il dit « Allah, pourquoi je fais ça ? Pardon, tawbah. » Lui, il est sincère. Et Allah seul est capable de juger. Alors que celui qui dit « Bon, je vais faire ça » et puis il demande pardon, Allah est karim, il pardonne. Lui n'est pas sincère. Quand il va demander pardon, hein, ses paroles ne seront pas en accord avec son cœur. Il ne sera pas sincère. Le tawbah n'est pas accepté. Allah, il sait pertinemment, et Allah est le seul juge, Allah, il sait pertinemment ce qu'il y a dans les cœurs. « Wa huwa al-latif al-khabir » Ah, j'ai sauté un verset. « Wa sirru qawlakum wa wajharu bihi innahu alimun bidati al-sudur »« Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir » Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé ? Point d'interrogation. Alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur. Ibn Kathir, rahimahullah, dit, si je retrouve, bismillah, « Ala ya'lamu al-khaliq »« Ay, ala ya'lamu al-khaliq » Il y a deux, enfin, pas l'habitude de donner les divergences de tafsir, mais il y a deux avis, les deux se rejoignent. « Ala ya'lamu al-khaliq » Il y a un qol « Ala ya'lamu al-khaliq » C'est-à-dire, le créateur ne sait-il pas ? Vous ne pensez pas que le Créateur, il sait tout ça ? Et l'autre lecture, l'autre façon de comprendre, « Ala ya'lamu Allahu makhluqa » Mais les deux, ça va dans le même sens. Ne pensez-vous pas qu'Allah, il connaît mieux ses créatures que quiconque ? Bien sûr que oui. Le Créateur ne connaît-il pas ? Oui, il connaît tout. Le Créateur ne connaît-il pas ses créatures ? Bien sûr que oui. Allah qui a créé la machine humaine, Allah connaît les tromperies de l'homme, Allah connaît les faiblesses de l'homme, Allah sait parfaitement ce qui se passe dans nos poitrines. Qu'on ne trompera jamais notre Seigneur, il faut être sincère et véridique envers lui. Ibn Kathir n'a pas donné il n'a pas fait le commentaire parce que ces fins de verset se répètent très souvent. Al-Latif al-Khabir, le compatissant, le parfaitement connaisseur. Le ulama ils expliquent que c'est qu'Allah Rabbul Izzah, il sait pertinemment ce qui est bon pour l'homme et il accorde ce qui est bon pour l'homme. Et parfois l'homme attend quelque chose, Allah ne lui donne pas parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien pour lui. Ah, non. On va s'arrêter là pour ce soir, on avait prévu de faire 25 minutes, on en est à 30 il me semble. Parce qu'après on a un enchaînement de versets qui risque d'être un peu long, où Allah Azza wa Jal rappelle tout ce qu'il a accordé à l'homme. « Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu » et la création, les cieux, la terre, les montagnes. Et puis, il y a des versets à l'attention de ceux qui ne croient pas en Allah. N'oubliez pas qui va vous aider. N'oubliez pas qui vous nourrit tous les jours jusqu'à ce que l'homme réalise que c'est Allah Azza wa Jalla. Donc ça, on va garder, Inch'Allah, Inch'Allah, pour vendredi prochain. Je pense qu'on en a encore pour deux séances ou trois grand maximum. Je pense plutôt deux. Et puis, on pourra, Inch'Allah, compléter sur la Surat al-Mulk. Allah Rabbul Izzah donne la possibilité de comprendre ces paroles. Encore une fois, le plus important, c'est de mettre en pratique, hein, qu'on lise déjà Tabarak al-Ladhi tous les soirs avant de dormir, et on essaie de se rappeler du sens des versets, afin que lorsqu'on lit, c'est une lecture qui est accompagnée de compréhension, et cela aura beaucoup plus d'effet sur nos cœurs. Tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.